Geneviève Peterson.
Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
Je disais ce matin sur le site de TVA l'histoire entourant la mort de l'ancien joueur de hockey professionnel Jimmy Hayes et sa famille qui décide de révéler là que on avait trouvé des traces de cocaïne et de fentanyl lors de l'autopsie. Puis vous irez le lire l'article parce qu'il y a le témoignage de son père en bas où il explique que lui-même étant un ancien toxicomane, il avait peut-être perçu des signes contrairement à sa famille immédiate. Là, je parle de sa femme aussi qui est vraiment très attristée de tout ça et qui souhaite qu'on se rappelle de son mari comme l'homme bon qu'il était et non comme un drogué, justement. Mais c'est vraiment un témoignage touchant de ça. Par là, je voulais parler de la consommation. Est-ce que les sportifs de haut niveau, les gens qui ont dû composer avec des blessures graves, donc qui se sont fait prescrire des antidouleurs, ont plus tendance à consommer des stupéfiants. On sait que le problème des opioïdes, souvent, ça émane justement d'une consommation d'antidouleurs. Tu deviens accro, puis là, ton médecin ne veut plus t'en donner, fait que tu tournes vers où? Tu tournes vers le marché noir, puis vers des drogues qui sont, entre guillemets, moins sécuritaires. On en parle avec le docteur Joanne Lévesque, neuropsychologue. Docteur Lévesque, bonjour.
Bonjour, Mme Peterson.
Bon, une très, très triste histoire là, que celle de cette ancienne athlète de la Ligue nationale de hockey qui semble être mort après avoir consommé de la cocaïne, du fentanyl. Là, je parlais des antidouleurs tantôt. Là, souvent, c'est la conséquence d'eux. Là. Ça vous surprend, oui, vous, quand vous entendez des histoires comme ça, des gens qui ont été blessés puis qui finissent par, justement, se tourner vers les stupéfiants?
Non, en fait, ça me surprend pas. Moi, ce qui me surprend, c'est que ça arrive pas plus souvent. Heureusement que ça arrive pas plus souvent, mais comme vous l'avez bien dit, souvent, ça va originer d'une prise d'antidouleur parce que les athlètes, ils se font mal. Ils se font mal presque à chaque fois qu'ils pratiquent leur sport. Donc, éventuellement, ça use, puis ça laisse des traces, puis ça devient insupportable. Donc, ils vont aller vers les antidouleurs. Mais une fois qu'on plonge dans ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les antidouleurs, effectivement, on s'habitue. On s'habitue, et ça prend toujours une dose de plus en plus grande pour enlever la douleur. Puis, et qu'éventuellement, c'est trop. On peut pas en prendre plus que ça parce que sinon, il y a un risque d'arrêt cardio-respiratoire. Donc, la personne peut vraiment mourir d'une overdose parce qu'elle va arrêter de respirer.
Okay.
Alors, c'est pour ça que les médecins arrêtent éventuellement d'en prescrire.
Parce qu'on parle de réflexe de respiration, c'est ça?
Oui.
Ah, c'est ça. C'est ça. Puis, dans le cas des sportifs, puis même, on le voit aussi, là, moi, j'ai couvert des dossiers où on avait des gens là, quasiment au-dessus de tout soupçon. Là, je me rappelle, entre autres, il y avait un dossier, là, une mère américaine qui avait été retrouvée décédée dans sa salle de lavage. Là, personne n'aurait pu penser qu'elle était accro aux opioïdes. Mais dans le cas des athlètes professionnels, il y a la pression aussi avec laquelle ils doivent composer, le fait de devoir retourner au jeu le plus rapidement possible, de gagner. Et ça, j'imagine que ça peut contribuer à la développer, cette dépendance-là aussi, là.
Absolument. Si on sort du domaine des opioïdes puis de contrer la douleur, mais il y a aussi gérer le stress, l'anxiété. Puis on l'a vu là dans les derniers mois, hein, on les compte, les athlètes là qui finalement se manifestent en disant, écoutez, moi j'en
suis plus capable.
Exactement. Et dans le cas des athlètes en question, j'en ai aucune idée, mais je sais, moi, pour en avoir rencontré, côtoyé, qu'ils vont souvent se tourner vers autre chose pour s'automédicamenter, que ce soit le cannabis, que ce soit l'alcool, que ce soit d'autres drogues. Parce que ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'on commence dans cette boucle-là, c'est tout le circuit de la récompense dans notre cerveau qui s'active. Et lui, il peut devenir hyperactif, ce circuit-là, et toujours en vouloir plus, en vouloir plus, en vouloir plus. Puis malheureusement, dans tous les cas, de toutes les drogues, il y a une habituation qui se présente, donc ça en prend toujours plus. Puis si on va vers quelque chose qui va nous calmer, donc un dépresseur pour se calmer les nerfs, bien le problème, c'est qu'éventuellement, ça va nous prendre quelque chose pour nous activer. Et là, c'est les servicieux du downer puis du upper, c'est-à-dire, par exemple, le cannabis et la cocaïne.
Ben oui, puis bon, comme neuropsychologue, c'est quelque chose que vous observez dans le cerveau, là, la structure qui se développe quand on a une dépendance. Puis c'est tellement vrai ce que vous dites, docteur Lévesque, parce que quand j'ai eu une opération, à un moment donné, ça fait 4 ans, puis on m'a donné du Dilaudide, tu sais. Oui, puis moi, je suis une ancienne toxicomane, j'ai pas peur de le dire, là. Quand j'étais adolescente, j'ai eu des gros problèmes de toxicomanie.
Okay.
J'ai pris ça, et là, j'ai fait, hé là là, ça, c'est dangereux. Ça, là, c'est dangereux. J'en ai pris 2 parce que j'avais vraiment trop mal. Puis mon médecin m'avait dit, écoute Geneviève, tu sais, je t'en donne 6 cachets. Puis bon, on verra qu'est-ce qui se passe ensuite là. Et après, j'ai rangé la bouteille Dr. Lévesque pour vrai là. Et je me suis dit, si je continue à en prendre, j'ai peur. J'ai peur pour moi.
Oui, j'en doute pas. J'en doute pas, c'est tellement une substance à laquelle on peut devenir facilement.
Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Qu'est-ce qui se passait dans mon cerveau à ce moment-là quand je prenais le Dilaudid puis je trouvais ça blain fun? Même si j'avais mal, j'avais très mal, là.
Oui. Mais c'est la dopamine, c'est la fameuse dopamine qui est relâchée en très, très grande quantité. Là. La dopamine, il y a comme plusieurs neurotransmetteurs, mais c'est la D1 en particulier, la dopamine D1. Puis c'est ça qui s'activait, mais qui était relâché en grande quantité. Puis ça, quand ça arrive en grande quantité dans notre cerveau, on se sent tellement bien. C'est vrai pour le Dilaudid, mais c'est vrai pour le cannabis, c'est vrai pour la cocaïne, c'est vrai pour le fentanyl, c'est vrai pour tout ça. Puis c'est cette recherche de bien-être là qui vient avec le relâchement massif de dopamine que les gens veulent retrouver. C'est ça qui est magique dans ça, malheureusement.
Mais est-ce qu'il y a des alternatives? Parce que les médecins sont bien au courant de ces effets-là, puis on sent quand même depuis quelques années qu'il y a plus de réticence de la part des médecins à prescrire des antidouleurs qui contiennent des opioïdes, là. Mais c'est une classe de médicaments qui est relativement très, très efficace aussi contre la douleur. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas comme de plan B. Est-ce que je me trompe?
Exactement. Non, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, des plans B. Les Tylenol extra forts, les Advil extra forts, ça a ses limites. Quand quelqu'un a vraiment mal, c'est pas pour rien qu'ils vont aller vers des médicaments comme ça. C'est parce que c'est ce qu'il y a d'efficace. Donc, c'est ça. Des fois, entre deux mots, faut choisir le moindre. Mais ce que ça prendrait, à mon avis, c'est peut-être pas de ne pas utiliser ça, le faire avec beaucoup de parcimonie, comme dans le cas de votre médecin, vous en aviez eu 6 comprimés. Pas
parce que j'avais dit que ça me faisait peur. J'avais confié ça, tu sais.
Mais c'est bien. Puis là, vous avez eu la sagesse de dire, ouf, je vais arrêter ça là parce que je sens que je pourrais glisser ailleurs. Mais les gens qui, mettons, dans le cas d'un sportif qui est suivi par une équipe de médecins, ben moi, je pense que le suivi devrait être très rapproché, puis s'assurer que la personne s'est sortie de ses antidouleurs ou de quoi que ce soit d'autre.
Ben c'est parce que c'est ça, là. À un moment donné, le médecin décide que le protocole de soins est terminé. T'sais, on n'en prescrira plus des antidouleurs, mais le problème, c'est que les gens se tournent vers le marché noir, s'en procurent ailleurs, se procurent toutes sortes de substances qui sont parfois avec des composantes douteuses. Ça, je veux dire, est-ce que c'est possible pour les médecins de faire ce suivi-là? Je veux dire, si la personne décide d'aller s'acheter, je sais pas moi, n'importe quoi, au coin de la rue, ils peuvent rien faire. Les médecins des équipes sportives, c'est plus les psychologues sportifs peut-être qui peuvent faire quelque chose à ce niveau-là.
Oui, probablement. Les psychologues sportifs peuvent faire un suivi de nature plus psychologique orienté vers la performance. Mais quelqu'un qui veut cacher ça... En fait, la dépendance, ça entraîne beaucoup de mensonges, beaucoup de cacheterie, beaucoup de honte, de culpabilité. Fait que c'est rarement quelque chose que les gens vont admettre facilement. Puis je pense que c'est encore plus vrai dans le domaine du sport parce que les athlètes de haut niveau, ils doivent performer. Fait qu'ils se voient pas, ils peuvent pas se voir.
Et puis il y a une image de santé aussi là, à travers ça, là.
Absolument, c'est un excellent point, effectivement. Donc, imaginez, c'est encore pire, mais peut-être que des prises de sang régulières, par exemple, mais je sais que les équipes sportives vont pas vers ça et ils pourchassent pas les athlètes qui pourraient peut-être être aux prises avec une consommation abusive de cannabis. Il y a beaucoup d'athlètes qui consomment du cannabis pour s'endormir après une partie parce que ça les active trop. Fait que pour pouvoir dormir, ils vont fumer du cannabis.
En même temps, c'est légal, le cannabis.
Exactement. Fait qu'il y a plus de problème avec ça, mais le problème, c'est que même si c'est légal, à la longue, ça crée vraiment un problème. Ça peut. Puis là-dessus, j'aimerais juste faire une nuance, c'est que c'est pas tout le monde non plus qui est sensible de la même façon.
Mais expliquez-nous ça. Dans le cerveau, là, y a-tu des gens qui ont plus de prédisposition à être toxicomanes? Parce que j'écoutais, ben en fait, je lisais le témoignage du père de ce hockeyeur-là, le Jimmy Ice, qui disait, ben moi aussi, j'étais un ancien toxicomane, puis il disait, mon fils, t'es un super bon gars, et ça allait bien pour lui, mais la dépendance était trop forte. Est-ce que cette idée d'être toxicomane, d'avoir une dépendance, est liée justement à notre tête, à notre cerveau?
Oui, ça peut absolument. Il y a une physiologie qui va être prédisposante, qui peut être plus grande chez quelqu'un. Ça peut être autant pour devenir accro à la cigarette. Vous savez, il y a des gens qui vont fumer 4 fois par année dans un party, dans des parties de bureau, peu importe, faire des parties de famille. Puis le reste de l'année, ils pensent même pas. Puis il y en a d'autres qui vont fumer une cigarette dans leur vie une fois, puis ils sont accros pour le restant de leur jour. Donc il y a vraiment une physiologie qui prédispose à être plus accro, si on veut.
Mais est-ce qu'on pourrait passer un test? Mettons, si moi je veux savoir si je suis à risque d'être toxicomane, est-ce qu'on pourrait me tester pour ça?
Écoutez, à ma connaissance, ça n'existe pas encore.
Imaginez ce qu'on pourrait éviter.
Ce serait incroyable. Définitivement, mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Mais peut-être que je me trompe, là, mais bref, comme je vous dis, à ma connaissance, ça serait incroyable, mais je pense que ça n'existe pas. Mais oui, puis c'est la même chose pour tout. Il y en a que c'est le sucre, il y en a que c'est ça, la cigarette, la nicotine, il y en a que c'est la coke, il y en a que c'est peu importe.
Mais est-ce que c'est vrai, par exemple, que si on a une morphologie de dépendance, appelons ça comme ça, un cerveau qui a plus de disposition, Dr Lévesque, par exemple, parce que moi, j'ai remarqué, par exemple, je prends mon exemple, là, mettons, je suis intense dans tout ce que je fais, là, tu sais, je suis accro à la drogue, mettons, les sports, je vais me plonger dans le sport, tu sais, il y a comme ça un profil?
Oui, il y a un profil dopaminergique spécial. Dans le fond, là, c'est que ça prend, les gens qui vont aller toujours vers de l'intensité, des sensations fortes, qui ont besoin d'être stimulés intensément pour se sentir vivant, pour se sentir bien, c'est des gens qui sont hyposensibles à la dopamine. Ça en prend beaucoup de dopamine pour que ces gens-là se sentent bien. La dopamine, elle va vraiment être apportée dans notre cerveau en grande quantité quand on est stimulé par l'extérieur. Fait que ça prend un apport extérieur souvent pour déclencher une réaction dopaminergique. Fait que peu importe que ce soit le sport ou une drogue quelconque ou du gâteau ou une cigarette, c'est le même principe qui s'applique.
Est-ce que ça se traite ou on est poigné toute notre vie avec ça? Je vais prendre votre petite carte d'affaires si jamais ça se traite. J'ai arrêté de manger du gâteau puis de m'entraîner trop.
Il faudrait voir. En fait, la neurochimie elle-même n'entraîne pas directement parce qu'on ne peut pas la mesurer directement encore chez l'être humain. Et ça, c'est une problématique. L'activité électrique qui accompagne, si on veut, le déclenchement ou la propagation d'une grande quantité de dopamine dans notre cerveau, ça se mesure et ça s'entraîne. Fait que je l'ai déjà fait. En fait, j'ai déjà entraîné des gens pour ça, qui me consultaient puis malheureusement, c'est des jeunes, là, c'est des jeunes anxieux, là, je dis jeunes entre 15 et 20 ans, qui ont commencé, par exemple, à fumer du cannabis pour dormir le soir, mais éventuellement, ils en fumaient le matin parce que leur journée leur faisait trop peur. Fait que imaginez-vous le cycle avec lequel ils étaient. Oui. Bref, ils m'ont consulté pour ça, puis on a réussi. Mm. Fait que ça peut être possible. Ça dépend toujours du contexte aussi de vie parce que c'est tellement facile de consommer quand on est là-dedans. C'est comme vous le dites.
On s'en rend pas compte, en fait.
Ah non, du tout. Ça fait partie du mode de vie, là. C'est devenu.
Oui, puis les amis sont tous aussi souvent sous le même pied. Puis c'est un monde qui est axé autour de la consommation. Nous, on avait une espèce de blague pas le fun là quand on était plus jeune. On disait les gens qui prenaient beaucoup de drogue, on les appelait les têtes brûlées. Là, on disait les neurones, il y en a plus. C'est une blague, c'est une mauvaise blague, mais d'un point de vue neurologique, quelqu'un qui consomme des drogues sur une longue période, que ce soit des opioïdes ou une autre drogue, est-ce que ça fait des changements sur le cerveau?
Bien sûr. Par exemple, si on prend le cannabis, ça ralentit énormément les lobes frontaux à la longue. Donc, ce que ça fait, c'est que la communication neuroélectrique, neurochimique au niveau frontal devient problématique, devient vraiment lente. Puis, il y a beaucoup donc en fait, la capacité du cerveau à pouvoir accéder aux capacités supérieures, que ce soit le jugement, la gestion des émotions, la planification, l'organisation, la concentration, tout ça, la mémoire de travail même, tout ça, c'est frontal dans notre cerveau beaucoup. On peut plus dire aujourd'hui qu'une région égale à une fonction, mais il y a beaucoup de circuits qui passent par les régions frontales qui sont en lien avec ce qu'on fait de mieux, l'être humain, ou nos plus grandes capacités. Et si nos régions frontales se mettent à fonctionner comme si on était en relaxation profonde, mais 24 heures sur 24, ça se peut qu'on ait plus de difficultés à gérer nos émotions à ce moment-là.
C'est fou. Ça se répare-tu?
Oui, ça peut se réparer, mais ça dépend toujours de jusqu'où on s'est rendu, puis qu'est-ce qu'on est prêt à faire pendant qu'on fait, par exemple, du neurofeedback pour corriger la situation. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire en termes de réduction de consommation? Moi, j'avertis toujours les gens que j'entraîne que de jamais consommer la veille, la journée même et le lendemain, parce que sinon, on va défaire au fur et à mesure ce qu'on fait dans le cerveau.
Hey, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Dr. Joanne Lévesque, qui est neuropsychologue. On partait là de cet ancien joueur de hockey professionnel, Jimmy Hayes, fentanyl cocaïne qui a été trouvé dans son système lors d'une autopsie. Pourquoi les sportifs ont une prédisposition parfois à consommer des drogues quand ils sont blessés? Puis c'est quoi les effets sur le cerveau d'une consommation de drogue? Vraiment très intéressant. Merci.